Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous donne rendez-vous aujourd'hui à Lavaur, dans le sud-ouest de la France, pour parler de l'engagement pour la santé dans les pays du Sud. Financer, définir des projets, établir des partenariats qui contribuent à renforcer une riposte adaptée dans les régions où le plus souvent, eh bien, les systèmes de santé sont loin d'offrir aux populations les soins, les services et les réponses thérapeutiques à la hauteur des défis sanitaires. Des moyens insuffisants qui, nous le montrons chaque jour dans cette émission, n'occultent ni les initiatives locales, ni les efforts des soignants et acteurs communautaires pour répondre à ces enjeux. Un chiffre pour concrétiser ces carences, le continent africain représente 16% de la population mondiale pour 1% seulement des dépenses médicales. Investir plus pour la santé, c'est donc une nécessité. Mais qui doit financer et comment le faire efficacement? Comment déterminer les bénéficiaires? Adapter les projets aux réalités locales? Comment éviter les détournements et les gaspillages? Réfléchir au long terme en renforçant la formation des personnels et le maillage des territoires? S'appuyer sur les talents locaux? Combiner le recours aux nouvelles technologies et aux savoirs traditionnels? Assurer un suivi? Garantir au final la pertinence, l'efficience de ces efforts? Financer la santé des pays du Sud sans imposer de modèle, sans se substituer aux décideurs locaux et sans affranchir certains gouvernements de ne pas assumer la première de leurs responsabilités, assurer le bien-être de leur population. Priorité santé enregistrée à Lavaur dans le Tarn avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre, 20e anniversaire de cette fondation qui agit dans 18 pays du monde au travers de plus d'une trentaine de programmes et qui a réuni à cette occasion scientifiques et politiques pour aborder les questions de santé mondiale comme de stratégie et de partenariat. Ce questionnement sur le financement de la santé dans les pays du Sud est donc lourd d'implications, comme on va le voir au cours de cette émission, en compagnie de nos quatre invités. Docteur Lara Gologli, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du bulletin de l'Organisation mondiale de la santé. Avec nous également aujourd'hui, Michel Sidibé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali. Professeur Léon Tchilolo, bonjour.
Bonjour.
Professeur Tchilolo, pédiatre hématologue, directeur du centre de formation et de recherche du centre hospitalier Mère-Enfant-Moncolet de Kinshasa, président du réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale. Et avec nous, Béatrice Garrett, bonjour.
Bonjour.
Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, Béatrice Garrett, merci de nous accueillir pour cette émission, ici hein, au siège de la Fondation à Lavaur.
Priorité santé sur RFI.
Alors, réflexion sur le bien fondé de cet investissement pour l'avenir que certains cantonnent à une forme de générosité. On entend parfois le terme de philanthropie, alors qu'une partie du monde affiche cette tentation de repli où la tendance est davantage à construire des murs qu'à tendre la main. Alors, financer la santé en période de crise humanitaire, on connaît ça, hein. Financer en période de crise alimentaire, de crise sanitaire, en période de flambée épidémique. Mais on va s'intéresser aussi au long cours, les maladies chroniques, les maladies génétiques, la prévention, bien sûr, c'est essentiel, l'éducation thérapeutique, la vaccination, l'équipement, la formation, on le voit, c'est très dense, c'est très touffu. Je me tourne vers vous, professeur Léon Tchilolo, le médecin, celui qui travaille sur le terrain, avec les familles, avec la communauté, spécialiste international de la drépanocytose, première maladie génétique au monde. Nos auditeurs connaissent bien cette maladie. Pourtant, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre à son sujet. Et pourtant, la drépanocytose, on peut dire qu'elle est d'une certaine manière encore négligée, moyen insuffisant par rapport à l'importance de cette pathologie dans un pays comme le vôtre, la RDC. Comment est-ce qu'on explique justement que certaines maladies soient si graves, si importantes, et pourtant attirent si peu de financement?
Eh bien, justement, la drépanocytose, on peut dire, c'est une maladie négligée, est une maladie pauvre, parce qu'elle concerne des populations qui ne sont pas nécessairement connues, et donc on n'en apprécie pas nécessairement l'impact au point de vue santé publique, alors qu'elle touche pour les pays africains, entre 1 à 2% de nouveau-nés qui naissent chaque année atteints de cette maladie. C'est le cas au Nigeria ou encore en République démocratique du Congo, où on estime que chaque année, il y a près de 40 à 50 000 nouveaux cas d'enfants qui naissent atteints de cette maladie. Malheureusement, les financements ne sont pas à la hauteur du problème, tout simplement parce que les institutions internationales ont donné comme priorité les grosses maladies, les grosses endémies bien connues, et la drépanocytose,
VIH,
le
sida,
VIH, la tuberculose
et le paludisme.
Et malheureusement, ces trois maladies concernent aussi justement ces patients qui sont atteints de la drépanocytose, mais ils ne bénéficient pas des fonds qui sont alloués au financement pour ces grosses endémies, alors que elle intéresse une grosse partie de la population. Elle est finalement une maladie qui est pauvre et qui n'est pas financée. Et les gouvernements locaux n'y attribuent que très peu de fonds. Et je peux dire que ce qui est fait en ce qui concerne la drépanocytose dans les pays africains, c'est vraiment le fruit de la solidarité internationale, mais surtout de la part des fondations et de la part des ONG du Nord qui ont bien voulu considérer cette maladie comme une priorité de santé publique.
Alors je me tourne vers vous justement, Fondation Pierre Fabre, Béatrice Garrett, vous dirigez cette fondation. Aujourd'hui, 22 000 patients drépanocytaires pris en charge par le biais justement de vos actions. Pourquoi avoir ciblé cette maladie? On le sait, quand on en parle autour de nous en France, les gens ne connaissent pas forcément, sauf s'ils sont issus de la communauté afro-caribéenne, mais sinon le grand public n'est pas habitué. Pourquoi vous, Pierre Fabre, ici on est dans le sud-ouest de la France, la drépanocytose, ça ne concerne pas grand monde, pourquoi vous y êtes intéressé?
Eh bien justement, parce que personne ne s'y intéresse. La mission de la Fondation, c'est d'améliorer l'accès aux soins et aux médicaments sur les populations des pays, justement, à ressources très limitées. Et nous avons été sensibilisés par des spécialistes comme le professeur Gentilini, le professeur Tchernia, le professeur Dapa Diallo au Mali, sur la nécessité d'agir, puisque c'est un tueur silencieux, cette maladie. 1 à 2% des naissances, 50% de mortalité s'il n'y a pas de prise en charge. Or, la prise en charge, elle est possible. On peut, non pas guérir, mais on peut gérer cette maladie et faire en sorte que les gens aient une vie digne. Et c'est le cas notamment au Mali, puisque c'est là que nous avons commencé notre action, avec l'ouverture en 2010 du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose à Bamako, qui est le fruit d'un partenariat public-privé entre la Fondation Pierre Fabre et le gouvernement malien. Et ce centre aujourd'hui, eh bien, il a en cohorte plus de 10 000 patients. Il est à la fois un hôpital de jour, mais c'est aussi un centre de formation et, je l'espère, aussi un centre de recherche. Les choses sont possibles, on peut évoluer. On a travaillé aussi avec le professeur Chilalo au Kinshasa. On travaille dans 8 pays en appuyant les acteurs locaux, des médecins, pédiatres ou hématologues qui déjà faisaient ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient pour traiter la population. Beaucoup de choses sont à faire et il faut aussi avoir une approche holistique globale, à la fois sensibiliser les populations, améliorer aussi la formation des soignants, donner accès effectivement aux médicaments et aux vaccins de base, traiter la douleur, parce que n'oublions pas, c'est la maladie de la douleur, et également essayer de faire progresser la recherche et sensibiliser la communauté internationale pour que l'ensemble des acteurs de santé prennent conscience que la drépanocytose doit faire partie des priorités de santé qui sont adressées par les financements internationaux.
Et c'est bien ce qu'on va comprendre au cours de cette émission, c'est pas parce que le chantier est immense qu'il ne faut pas s'engager sur une voie, parce qu'on peut lever comme ça des leviers progressivement. Michel Sidibé, on a parlé du Mali, ministre malien, c'est justement tout ce travail de plaidoyer, convaincre que c'est là que sont les besoins, convaincre que les populations attendent une action. Vous connaissez bien ce travail de plaidoyer. Avant, vous étiez directeur exécutif de l'ONU SIDA, aujourd'hui au gouvernement à Bamako. Justement, comment on voit les deux côtés des choses, ce qui existe en termes de ressources internationales et puis ce qu'on attend sur le terrain?
Moi, je crois que ce qui est très important, c'est de revenir un peu sur la vision qu'on voudrait porter. Cette vision, elle doit s'inscrire dans la logique d'une justice sociale plus élargie. On doit considérer que la santé, c'est un bien commun. On doit considérer que la santé, c'est un droit. Si nous partons de ce postulat, cela veut dire que nous allons aller vers une couverture universelle. Et pour aller vers cette couverture universelle, ça veut dire qu'on doit avoir des programmes inclusifs. Nous devons aller vers les populations là où elles se trouvent. Donc, ce qui voudrait dire que le financement ne doit pas être seulement des financements globaux qui restent au niveau le plus élevé, mais ce sont des financements qui doivent être plutôt appropriés à l'action rapide au niveau le plus décentralisé. Et moi, je le constate tous les jours aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire des plaidoyers énormes pour mobiliser des ressources globales et je continue à le faire. Je pense que la mobilisation des ressources du Fonds mondial à Lyon est importante.
Le mois prochain,
il faut avoir les 14 milliards. Il faut continuer à le faire. C'est un signal très important de partenariat global. Mais ce qui manque, à mon avis, c'est le lien avec l'action directe.
Est-ce que justement, dans un pays comme le vôtre, le Mali, je pense au modèle français avec les agences régionales de santé, est-ce qu'il y a comme ça des structures intermédiaires qui permettent de cibler les investissements en fonction des besoins des populations ?
Oui, moi je crois que ce qui est très important, c'est d'abord faire en sorte qu'il y ait une plus grande coordination au niveau des acteurs. Et ceux qui viennent avec une très bonne volonté de vouloir investir, d'aller vers les populations. Mais quand vous êtes ministre de la santé, comme je le suis à l'heure actuelle, et que j'ai 190 acteurs, des ONG nationales au nombre de 90, les ONG internationales au nombre de 96, et qu'il n'y a pas une harmonisation, et qu'il n'y a pas un alignement vis-à-vis des priorités nationales, et que chaque ONG apporte bien sûr son dynamisme, mais malheureusement, il y a un problème d'efficience, comme vous l'avez dit, il y a un problème de fragmentation, il y a un problème de difficulté de conduire ces actions-là pour produire des résultats auprès des populations. Et ça, on le sent tous les jours. Donc, les financements sont importants. Nous allons en parler parce que la charge, certainement, elle est lourde. Lorsque vous avez, en Afrique par exemple, vous mentionnez seulement 1% des dépenses mondiales en santé, alors qu'on a pratiquement 24% du poids de la maladie mondiale. Mm-hmm. Mais c'est pas là le fond du problème. Le fond du problème, c'est que à l'heure actuelle, les populations, est pratiquement pour la moitié des États africains, 36% des dépenses de santé viennent
des populations.
Des populations.
Dépendance de l'international et dépendance qui s'endette, les populations qui s'endettent. Pour justement soigner la famille.
Mais bien sûr, l'exemple le plus criant, moi j'étais encore en Ouganda, on a visité un hôpital, je crois que à peu près 50% des malades qui étaient là avaient dû vendre pratiquement leurs biens pour pouvoir avoir accès à ces soins chroniques qui sont par moments très chers.
Alors, toute la question, c'est déterminer les priorités. On a donné justement en introduction l'exemple de la drépanocytose. En fait, on croule sous les priorités. L'OMS, l'une de ses charges justement, docteur Lara Gologli, c'est de définir ses priorités. Comment est-ce qu'on fait ?
Pour les maladies négligées, tant que telles, normalement, il y a 4 critères. Et jusqu'à présent, il y a une seule exception, elles sont toutes infectieuses. Comme la drépanocytose est une maladie génétique, elle ne se trouve pas dans ces critères. Ces critères sont le fait qu'elle touche prioritairement les populations pauvres. Elle existe essentiellement dans les pays tropicaux et qu'il y a un manque de recherche et un manque d'une distribution ou d'accès à un traitement efficace. Et pour ces 4 critères-là, la drépanocytose ne se trouve pas dedans. Donc, il faut le placer là où on veut augmenter l'effort, c'est-à-dire dans les maladies non transmissibles chez les enfants, où on peut combiner la drépanocytose avec le diabète de type 1, l'asthme sévère, les choses qui touchent énormément de la population, mais que dans un système de santé qui est fragmenté par les priorités infectieuses, ces enfants ne sont pas traités.
Comment ça se passe entre les bénéficiaires et les bailleurs? Là, on parle du financement international, c'est un petit peu au centre de notre émission aujourd'hui. Michel Sidibé, vous avez connu justement ces deux côtés. Comment ça se passe quand on détermine une priorité? Tout à l'heure, vous disiez des dizaines et des dizaines d'ONG avec lesquelles vous êtes en contact. Comment vous leur dites, c'est là qu'on a besoin de vous, ou eux viennent en vous proposant des actions? Comment ça se passe?
Le vrai problème, c'est qu'on est dans des contextes par moment qui sont complètement différent. Quand vous êtes au Mali et que vous êtes dans une situation de crise et que vous êtes en face de crises d'ailleurs multiformes, que ça soit économique, sociale, mais surtout une crise sécuritaire. Bon, généralement, les gens profitent de ces situations parce que l'État ne s'organise pas avec une force évidente pour aller vers la définition des priorités et faire en sorte que la coordination, elle se fasse de façon centrale.
Donc, et ça, les populations le disent et s'en plaignent.
Les populations s'en plaignent.
On fait un peu n'importe quoi. Des fois, on a l'impression qu'on est en train de distribuer de l'argent. La fameuse image des gros 4x4, hein, les gens disent, on voit ces 4x4 arriver, et nous, ben, on n'a pas l'impression de bénéficier concrètement de tout cet investissement international.
Et c'est pour cela que c'est très important que la place de l'État, c'est-à-dire que les fonctions normatives de l'État, que l'État soit présent, que l'État soit capable de définir ses priorités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que le président de la République a porté une réforme vraiment qui est très courageuse en annonçant bien sûr des gratuités à plusieurs niveaux pour aller vers cette justice sociale. Mais il faut traduire ça en termes de programmes très clairs avec des plans d'action que nous sommes en train de définir. Et nous avons amené pratiquement tous les acteurs à l'heure actuelle autour de la table pour dire que bon, nous allons définir nos priorités en fonction des zones, bien sûr.
Mais bien évidemment, Michel Sidi Bé, quand on est en situation sécuritaire, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali, dans une partie de cette région sahélienne, également dans une partie de la RDC, quand il y a des priorités, comment est-ce que les gouvernements continuent malgré tout de renforcer le système de soins de santé primaire? Parce que même s'il y a des crises graves, eh bien, il y a toujours des carences énormes sur les premiers soins, y compris dans certaines régions. Je pense en particulier, je me tourne vers vous, professeur Léon Tchilolo, sur la vaccination. Il y a des régions de RDC, on le sait en ce moment avec la vaste épidémie de rougeole, il y a des régions où ces soins primaires, eh bien, ils ne sont pas remplis.
Vous avez tout à fait raison, c'est pas parce qu'on a une priorité pour des raisons sécuritaires que l'on doit négliger les choses essentielles. Les soins de santé de base restent quand même une priorité à tous les niveaux. Et je pense que les autorités de nos différents pays devraient d'abord assurer les soins de base à toute la population. C'est un droit, comme Monsieur Sidi Bé l'a dit, mais aussi alors se concerter avec les bailleurs de fonds internationaux sur justement les choix les plus appropriés, sans négliger ce qui est essentiel et fondamental.
Justement, Michel Sidi Bé, besoin en matière de santé énorme, crise au Mali, mais encore des dispensaires où il manque l'essentiel. On est tenté de se poser la question, par où commencer? Comment vous faites?
Non, moi je crois qu'il faut repartir vers les populations. Nous avons eu la chance, par exemple, ces deux derniers mois, d'aller au moins 6 fois avec le Premier ministre, 4 fois dans la zone inondée, exondée du centre du Mali. Et nous avons constaté que un peu partout, contrairement à ce que les autres pouvaient penser, les structures de santé, elles étaient présentes. Et les populations ont une demande en matière de santé. La santé peut être un point d'entrée pour même la construction de la paix. Parce que les populations, elles ont l'impression quelque part qu'on peut rétablir un lien plus étroit entre l'État et ces populations qui peuvent penser être délaissées. C'est pour cette raison que je crois que la définition des priorités ne doit pas nécessairement se faire seulement en fonction des ressources qu'on a ou qu'on n'a pas. La définition des priorités, elle ne doit pas être conduite, je voudrais dire, par des ressources verticales qui viennent. La définition des priorités, elle doit partir des besoins de ces populations.
De la base qui fait monter les informations.
De la base qui fait monter l'information. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire à l'heure actuelle pour changer complètement la pyramide. Sinon, on risque de se retrouver dans des situations ingérables.
Alors, bénéficiaire le Mali, contributeur la Fondation Pierre Fabre. Justement, Béatrice Garrette, comment est-ce que vous trouvez les bons interlocuteurs? Parce que dans vos investissements, parce qu'on ne parle pas de dépenses de santé, mais ici, mais bien d'investissements en santé, comment est-ce que vous faites pour trouver les bonnes personnes au niveau scientifique, mais aussi au niveau de la gestion de ces ressources pour qu'il y ait justement cette efficience.
Alors, c'est un travail un peu sur le long terme. Nous sommes partis de l'expertise scientifique. C'est-à-dire que l'action, elle doit être soutenue par une vraie réflexion avec des scientifiques qui connaissent les sujets, qui sont capables de guider cette action pour que justement elle soit efficiente et pertinente. Et ces scientifiques, ils doivent venir du Sud aussi. Pas seulement du Nord, c'est ça qui est très important. Je pense qu'il faut un vrai travail d'écoute. Quand nous avons bâti notre expertise sur la drépanocytose, peu à peu, évidemment, on a étendu notre réseau, c'est-à-dire qu'on a identifié les personnes qui avaient une action sur le terrain. Et notre objectif, c'est d'abord de soutenir ces gens qui ont commencé par eux-mêmes, souvent avec très peu de moyens, de façon à leur permettre d'aller plus loin et puis de pouvoir développer leur modèle. Parce que je dis leur modèle, c'est toujours plus intéressant d'avoir un modèle qui vient du Sud, c'est-à-dire qui correspond non seulement aux besoins, mais souvent qui est adapté aux ressources existantes pour ne pas créer des éléphants blancs, des choses qui soient finalement difficiles après à soutenir financièrement.
Et des bâtiments qu'on voit hein, quand on se promène en Afrique, des bâtiments qui sont abandonnés, le mur est là, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a surtout pas de soignants.
Exactement. Et je crois aussi de plus en plus qu'il faut une approche décentralisée. C'est-à-dire, c'est vrai que, bon, c'est le cas de Bamako, il y a un centre d'expertise, mais maintenant, depuis plusieurs années, la priorité, c'est de décentraliser les soins, c'est-à-dire d'appuyer les hôpitaux régionaux pour qu'ils aient les centres de compétences et que les personnels soient formés à la prise en charge et que, comme toute pyramide sanitaire qui fonctionne bien, on ne réfère au centre de la capitale que des cas particuliers, mais que par ailleurs, on décentralise un maximum la prise en charge de base pour les populations.
Alors tout en haut de cette pyramide, il y a l'OMS, hein, qui est vraiment, on va dire, le cadre institutionnel suprême. Docteur Lara Gologli, justement, ces institutions moteurs comme l'OMS, quand on s'intéresse à la santé, on va regarder vos fiches, tout ce que vous faites en matière de statistiques, d'épidémiologie. Comment vous faites pour travailler sans perdre le contact avec ce terrain, on l'a compris, sans le terrain, on ne peut pas comprendre la demande. C'est essentiel.
Oui, c'est essentiel. Alors, on a une centaine de bureaux dans les pays en voie de développement. Et de ces bureaux-là, viennent les données qui permettent, en fait, justement, cette priorisation ou le changement des priorisations. Parce que, justement, comme les maladies négligées étaient souvent infectieuses au départ, parce que c'était les causes de mortalité les plus répandues, maintenant, avec beaucoup plus de couverture de vaccination, on peut se permettre de passer à des maladies plus chroniques qui touchent les enfants aussi, qui sont responsables d'une mortalité et morbidité pour ces enfants. Mais on ne peut faire ça que si on sache ce qui se passe sur le terrain. Et c'est par la structure de bureaux régionaux et au siège que toutes les données sont collectées pour le monde entier et on voit ce qui se change dans les populations.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le virage épidémiologique et du coup l'OMS qui s'investit de plus en plus vers les maladies non transmissibles?
Exactement, avec le virage épidémiologique, mais aussi avec le fait que c'est Afrique, le moteur en fait, où la population grandit le plus, où il y a la plus grande
poussée démographique.
Exactement.
Alors justement, on parle des investissements, on parle de cette efficience, mais pour ceux et celles qui nous écoutent, on peut pas passer à côté de ces grands gaspillages, parce que sinon ils nous disent on fait de la théorie, on n'est pas dans la pratique. On voit sur le terrain les traces des pancartes qui indiquent qu'il y a eu des projets qui ont été lancés, c'est rouillé, c'est démonté, ça a été abandonné. Qu'est-ce qu'en pensent justement les populations, professeur Chilolo, en voyant tout cet argent qui a été investi et gaspillé, et qu'en pensent les soignants comme vous, qui ont besoin de ressources et qui voient finalement des fonds, on va dire, se perdre dans la nature?
Eh bien, les soignants voient qu'ils n'ont pas été toujours consultés. Et je pense que c'est important de les écouter aussi lorsqu'on doit investir en matière de la santé. Parce que justement, ce que vous dites, on a vu des hôpitaux qui ont été créés et qui ont coûté très cher à l'État et qui ne sont pas du tout fréquentés.
Et qui ne sont pas adaptés.
Et donc ça, ce sont les fameux éléphants blancs qu'il faudrait nécessairement éviter. Alors, ce que les soignants demandent, c'est qu'il ne suffit pas de construire des hôpitaux. Il faut encore avoir des ressources humaines adaptées, qui sont recyclées, qui sont formées, mais qui sont aussi motivées. Pour le moment, il y a un grand exode de personnel soignant vers les milieux urbains, tout simplement parce que dans le milieu rural, on n'a pas l'accès à l'énergie, on n'a pas la possibilité de scolariser les enfants correctement, et donc tout est concentré, enfin la grosse partie des soins de qualité, plus ou moins, est concentré dans les grosses villes.
Et encore, professeur Chilolou, vous ne parlez pas de la fuite des cerveaux, tous ceux qui sont formés en Afrique et qui finalement servent la santé des pays du Nord alors qu'ils sont financés par les États du Sud.
Et justement, pourquoi est-ce qu'ils fuient ? Ils fuient pour ces raisons, pour un problème de manque d'équipement. Et vous l'avez évoqué, c'est important que lorsque vous avez un personnel qui a été formé au Nord, lorsqu'il revient dans son pays, s'il ne trouve pas le matériel nécessaire sur lequel il peut travailler, il se sent inutile. Et donc, il faudrait nécessairement répondre aussi à ce besoin, mais aussi donner l'occasion au personnel de santé de se sentir protagoniste.
D'être écouté, d'être acteur.
Voilà, d'être vraiment acteur. La santé n'appartient pas qu'aux politiques. Il faut aussi compter sur justement les personnels de santé qui peuvent donner des idées. L'exemple, c'est toutes les actions qu'a porté par exemple la RDC, le docteur Mukwege. C'est un exemple typique d'un protagoniste de la santé.
Et un acteur au-delà justement de sa spécialité qui a compris cette approche holistique. En connaissant la société, on apporte les réponses adaptées. Justement, quand on finance du Nord, est-ce que les choses changent ? Est-ce qu'on en a un petit peu terminé, excusez-moi de cette expression un petit peu crue, avec une forme de colonialisme sanitaire, c'est-à-dire arriver, plaquer des modèles qui ne correspondaient pas aux réalités ? Est-ce qu'aujourd'hui, on en a fini avec ça, Michel Sidibé ?
Ce qui est très important, c'est de comprendre que les pays ont énormément évolué. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une coordination beaucoup plus forte entre les différents ministres de la santé, entre les États. On travaille de façon plus stratégique, les visions sont là. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, un pays viendrait et imposerait...
Dicter sa loi.
Dicter sa loi, par exemple, au Mali pour leur dire, bon, voilà ce que... Non, je crois que ce moment, cette page, on l'a tournée, c'est terminé. Mais ceci étant dit, moi, je pense quand même qu'il y a un problème très important. Il faut qu'on continue à mettre l'accent sur l'obligation de rendre compte. Et cette obligation de rendre compte, elle doit être mutuelle. Ce n'est pas une obligation de rendre compte seulement de ma part, c'est une obligation de rendre compte de la part de l'OMS, des bilatéraux, de tous les multilatéraux qui travaillent sur nos espaces. Il faudrait que chaque fois qu'on investit un dollar, qu'on soit capable de dire, bon, voilà, il y a une obligation de résultat, il y a une obligation de transparence, et que ces obligations de transparence nous obligent à aller vers des objectifs qui vont permettre de changer la qualité du service, mais aussi permettre d'atteindre les plus démunis, les vulnérables.
Et de lutter contre la corruption.
La corruption, de part et d'autre. Comme je le dis très bien, on part dans des systèmes un peu plus cohérents, plus efficients.
Et c'est quelque chose que vous avez souhaité engager justement au sein de votre fondation. Béatrice Garrett, vous êtes en contact justement avec des interlocuteurs locaux de terrain. On peut dire que ça évite d'une certaine façon la déperdition ?
Je crois que ce qui est important aussi de dire, c'est que on peut pas agir efficacement si on a un investissement ponctuel, visible, et je pense que c'est moins le cas maintenant, mais je veux dire, construire un bâtiment, visser sa plaque et faire une inauguration et partir ensuite.
C'est pas possible.
Ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, il faut savoir que c'est un engagement de long terme. Les difficultés sont immenses et il faut investir dans le capital humain. Donc les soignants, ils ont effectivement besoin aussi d'être formés, de formation continue, ils ont besoin d'être soutenus et ils ont besoin d'avoir aussi un environnement de travail décent avec un minimum de matériel, de médicaments pour pouvoir donner une réponse en fait à la population. Donc c'est vrai qu'il faut avoir cette approche et il faut aussi que les bailleurs n'aient pas peur d'investir dans des frais de fonctionnement. Tout le monde a envie de faire de l'investissement et en disant après bah c'est le ministre de la Santé qui pourvoira aux frais de fonctionnement, mais c'est vrai que parfois pour changer en fait la qualité, il manque des fois pas grand-chose, mais une petite enveloppe budgétaire supplémentaire qui permettra qu'il y ait les quelques soignants supplémentaires, les spécialistes, les formations qui font que, bah oui, là, on va changer d'échelle et on va apporter une vraie réponse à la population.
Il y a une caricature, c'est pas simplement amener dans un hôpital un appareil pour faire des radios. Il faut l'entretenir, il faut les techniciens, il faut les spécialistes, il faut tout ça. Et puis, il faut même éventuellement la climatisation pour qu'il ne tombe pas en panne.
Exactement. Et si on fait des indices biologiques, il faut des réactifs et il faut etc. Et il faut que aussi ce matériel flambant neuf, est-ce qu'il répond vraiment à des besoins? Est-ce qu'on peut pas avoir un matériel plus rustique qui durera plus longtemps et qui permettra d'utiliser les investissements de façon plus intelligente?
Et tout ça s'appuie sur les acteurs de terrain, professeur Léon Chilolo, très important de ne pas déposséder ces personnes. On s'appuie sur les ressources existantes et on n'arrive pas avec des solutions toutes faites.
Oui, ça c'est la réalité, entre autres dans notre pays. Et là, c'est ce que la Fondation Pierre Fabre a fait, et s'est appuyé sur les ressources locales. Parce que je pense que les pays africains, après 50 ans, 60 ans d'indépendance, ont quand même un potentiel dans les ressources humaines qui pourrait bien être adapté aux besoins présents dans les différents pays. Et ce potentiel, il faut vraiment le rendre acteur, comme on l'a dit tantôt, et il faut en être confiant, mais il faut aussi aider ce potentiel à se développer davantage par, entre autres, des activités de formation, mais également de la recherche, puisque l'OMS a encouragé les pays africains à utiliser les budgets qui sont dédiés à la recherche, mais que les pays africains utilisent très peu, justement, parce que nous manquons des ressources humaines qui peuvent profiter de cet aspect-là pour faire de la recherche. Pour ce qui concerne la drépanocytose, c'est très intéressant que les acteurs locaux puissent connaître la réalité de cette maladie dans un contexte déterminé pour pouvoir apporter des solutions parfois adaptées aux conditions africaines, mais qui ne sont pas les mêmes pour les drépanocytaires qui vivent aux USA.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Priorité santé, aujourd'hui nous parlons du financement de la santé au sud avec nos quatre invités, hein, toujours dans le sud-ouest de la France à Lavaur, à l'occasion des 20 ans de la Fondation Pierre Fabre qui nous accueille. Financement de la santé au cœur de l'actualité de la rentrée. On l'a évoqué tout à l'heure avec vous, Michel Sidibé, puisque se prépare pour le mois prochain la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ce rendez-vous international pour attirer les ressources pour lutter contre ces grandes infections au cours des années à venir. Avec nous, toujours autour de cette table, Béatrice Garret, directrice générale de la Fondation, docteur Lara Gologli, rédactrice en chef du bulletin de l'OMS, professeur Léon Chilolo, pédiatre hématologue, et vous, Michel Sidibé, ministre de la Santé du Mali. Question clé sur cette utilisation des ressources, notre sujet depuis le début de cette émission, avec le suivi des investissements. Est-ce qu'il existe au Mali une structure spécifiquement allouée à cette forme de surveillance? Vous disiez tout à l'heure, il faut qu'il y ait des acteurs qui répartissent les budgets. Cette obligation de résultat, elle existe aujourd'hui? Il y a des sortes de contrôleurs sanitaires ou c'est quelque chose encore à construire?
Ce qui est en train de se faire, c'est que de plus en plus, il y a un dialogue qui s'est établi entre le gouvernement, la société civile, les partenaires qui interviennent. Et nous avons au moins aujourd'hui un espace qui nous permet de faire une revue régulière des investissements qui viennent au Mali. Et voir si ces investissements sont porteurs, si ces investissements nous permettent d'aller vers nos objectifs que nous nous fixons. Est-ce que ces investissements aident vraiment à faire en sorte que nous puissions donner une meilleure santé, une offre de santé aux populations là où elles se trouvent? Donc, cet espace a été créé et tous les partenaires s'inscrivent et dans ce dialogue et de façon très ouverte. Mais le grand problème n'est pas tellement là. Le vrai problème à l'heure actuelle, c'est comment faire en sorte que chaque dollar investi puisse porter un retour sur investissement vraiment important.
Vous posez la question, Michel Sidibé, mais vous êtes là aussi pour apporter des réponses. Qu'est-ce que vous faites pour répondre ?
Moi, je crois que pour répondre à cette question qui est fondamentale, il faudrait qu'on change la pyramide. La pyramide à l'heure actuelle des soins, elle est extrêmement chère. Disons une pyramide inversée. La plupart des demandes se font au niveau hospitalier qui coûte extrêmement cher, avec des plateaux techniques qui ne fonctionnent pas, avec des hôpitaux qui sont très vieux. Donc, et ce qui est important aujourd'hui, c'est de renforcer les services à la base.
Ça veut dire renforcer la santé communautaire.
La santé communautaire. Et aller vers ces communautés-là avec des services simples, décentralisés, maîtrisables par les communautés, et faire en sorte qu'on puisse au moins prendre en charge 80 à 85% des pathologies les plus communes au niveau décentralisé. Ce qui ferait que, un, le coût serait beaucoup moindre, et deux, on aura certainement une mortalité plus faible, et trois, nous allons renforcer cette capacité décentralisée mentionnée par Béatrice à l'heure actuelle.
Oui, mais je ne vais pas vous apprendre que l'argent, c'est le nerf de la guerre, Michel Sidibé. Est-ce qu'aujourd'hui, pour justement aller vers ce maillage territorial, vers cette santé communautaire adaptée, vous en avez les moyens? Est-ce que quand vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois au gouvernement à Bamako, je vais être concrète, est-ce que vous êtes fixé un objectif en matière d'arbitrage? Est-ce que vous avez dit bonjour monsieur le président, bonjour monsieur le premier ministre, voilà ce que je voudrais obtenir?
Non, d'abord le président, lorsqu'il a décidé de me nommer de numéro 2 du gouvernement, il l'a fait avec une vision. Il pensait sincèrement que la santé, c'était un point d'entrée très important, qu'il fallait qu'on se réconcilie avec nos populations, qu'il fallait nécessairement aller vers ces populations. Donc, cette discussion, elle est en cours. Je l'ai eue pour leur dire clairement que c'était impossible d'aller vers nos objectifs de santé aujourd'hui avec les budgets que nous avons. Mais il faut comprendre qu'il y a des arbitrages qui sont tellement difficiles lorsque vous êtes dans des situations de conflit, lorsque vous êtes dans des situations d'insécurité permanente. Malheureusement, la plupart des ressources sont investies dans le sécuritaire. Et la santé...
Pas souvent après. Il y a eu la conférence d'Abuja, 2001, objectif 15% des dépenses publiques allouées à la santé.
J'étais à Abuja et je pense que je
faisais le plus loin. Et vous êtes à Bamako aujourd'hui, on en est à combien à Bamako aujourd'hui?
À Bamako, on est autour de 4,5% du PIB, ce qui n'est pas du tout acceptable. Et je pense que le Premier ministre le sait et il m'a vraiment fait comprendre qu'il allait faire un effort pour que les budgets de santé augmentent au Mali.
Avec justement de l'argent, suffisamment d'argent pour faire face à toutes ces problématiques, déserts médicaux, hein, en Afrique on le sait, difficile d'aller dans un centre de soins, encore plus difficile de voir un spécialiste quand on est en dehors de la capitale. Docteur Lara Gologli, justement sur ces réalités locales, sur ce manque de spécialistes, sur la formation des soignants, comment l'OMS peut agir?
L'OMS agit en aidant les gouvernements à comprendre leur structure de ressources humaines et de savoir où les tâches qui ont été assurées par les médecins peuvent être transférées aux aides-soignants, aux infirmières, les aides dans le secteur de l'éducation à former des médecins. Et on a maintenant, justement, à Lyon, l'établissement avec l'accord du président Macron, un centre qui s'appelle la WHO Academy, qui va former dans le monde entier des médecins, des aides-soignants, des infirmières, toutes les paraprofessionnels de la santé, mais aussi avec une sortie vers les familles. Parce que le premier donneur du soin, ce sont ses aidants,
mais c'est la famille, tout simplement.
C'est les parents.
Et on peut même dire souvent la maman.
Souvent la maman, voilà, souvent.
Avec cette première pierre hein, de cet établissement de santé qui va être construit à Lyon, qui sera posé à l'occasion de la réunion de reconstitution du fonds.
Exactement.
C'est quelque chose dont on reparlera bien évidemment. Il y a tout ce programme donc à développer et ces questions politiques, moi j'y reviens, j'insiste là-dessus, professeur Léon Tchilolo, que ces contributions extérieures ne fassent pas oublier au pouvoir public leur propre responsabilité. On ne va pas rentrer dans la politique, y compris, même s'il se passe beaucoup de choses en ce moment du côté de Kinshasa. Quand même, comment est-ce qu'on peut faire quand on est soignant pour que les États assument leurs responsabilités? Ça veut dire simplement vous donnent l'argent nécessaire, consentent à la santé des budgets dignes de ce nom.
Il faut continuer à faire le plaidoyer même quand on est un personnel de santé au niveau local. C'est ce que nous avons fait pour la drépanocytose, qui pour l'État congolais est devenue une priorité, puisque nous avons un programme national de lutte contre la drépanocytose, même s'il n'a pas suffisamment de moyens. Justement, les budgets alloués au programme national de lutte contre la drépanocytose est insuffisant, mais néanmoins, c'est un moyen qui a permis à ce que il y ait un plaidoyer, une sensibilisation au niveau du gouvernement aussi. Et là, en République démocratique du Congo, nous avons l'avantage maintenant de compter aussi sur l'appui et le plaidoyer de la Première Dame, qui a fait de la drépanocytose une de ses priorités pour la fondation qu'elle a créée. Et c'est un moyen pour sensibiliser à la fois les parlementaires, les autorités, le ministère de la Santé, pour qu'on puisse dédier des fonds adéquats à la drépanocytose. Et je rejoins aussi Monsieur Sidibé en ce qu'il disait qu'il faudrait quelque peu inverser la pyramide des soins. Il faudrait aussi changer de mentalité dans le sens que les soins de base, c'est fondamental. Pour ce qui concerne la drépanocytose en RDC, on l'a introduite dans le paquet minimum d'activités qu'on doit avoir au niveau de chaque centre de santé. On est en train de développer une politique pour développer davantage les hôpitaux de jour, parce que une maman qui va être hospitalisée avec son enfant pendant 3 jours, parce qu'il va être transfusé, ça signifie qu'elle va manquer des moyens pour nourrir sa famille pendant 3 jours, parce que c'est elle qui tient quand même les finances de la maison. Et ça, c'est important de changer aussi cette vision de la santé.
Et puis aussi, ce n'est pas parce qu'on est dans des zones reculées qu'on doit abandonner l'innovation, la recherche, les nouvelles technologies, et ces nouvelles technologies sont très loin de relever du gadget, hein, Béatrice Garrette. C'est ce qu'on voit en particulier pour certaines spécialités, la dermatologie, avec tout l'apport du numérique, de la télémédecine dans ce secteur.
Oui, et là je dirais que le Sud a pris de l'avance. Et je vais citer à nouveau l'exemple du Mali, puisqu'il y a un professeur, le professeur Ousmane Faye, qui depuis des années déjà s'est posé la question: comment décentraliser l'accès aux diagnostics et aux soins dermatologiques. Et il a commencé par faire de la formation, à former justement en délégation des agents de santé, qu'ils soient médecins ou infirmiers, dans les centres de santé. Et puis, il y a 4 ans, il s'est dit, il faut que j'aille plus loin. Comment je peux faire pour former davantage et donner accès? Et c'est là qu'il a mis au point un programme qui s'appelle Télédermalie. Magnifique, avec le professeur Cheikh Oumar Bagayoko, qui est aussi un spécialiste de l'informatique médicale malien. Et ensemble, ils ont conçu en fait une plateforme sécurisée qui permet à des agents de santé préalablement formés à déjà distinguer des cas simples qu'ils sont capables de prendre en charge, d'où la délégation, mais également pouvoir isoler les personnes qui nécessitent l'avis d'un spécialiste et, au lieu de les envoyer à des milliers de kilomètres à Bamako, permettre que ce cas soit référé via la plateforme numérique avec des photos, avec du texte, aux spécialistes du pays. Pas les spécialistes du Nord, les spécialistes du pays.
Qui connaissent bien les pathologies.
Et qui vont pouvoir poser un diagnostic et ensuite donner l'information au médecin ou à l'infirmier dans le centre de santé pour qu'il puisse prendre en charge et traiter la personne. Et ça a été fait de façon extrêmement rigoureuse et scientifique, puisqu'il y a eu 18 mois de tests dans 3 régions du Mali, une évaluation a posteriori, une publication scientifique, et maintenant, franchement, c'est un cas magnifique puisqu'il est mis à l'échelle sur l'ensemble du pays. Et maintenant, on peut dire que toutes les régions du Mali sont couvertes. Il y a 80 centres de santé qui participent à ce réseau. Et il a été tellement, je dirais, emblématique qu'il est maintenant répliqué au Togo et en Mauritanie. Donc là, on a un exemple fabuleux de coopération sud-sud.
Et qui ne se substitue pas à quelque chose qui existait. On n'a pas pour autant abandonné un mode d'approche, un mode de soins préexistant en justement dépossédant les soignants, mais là, on a vraiment apporté un plus.
Pas du tout. Au contraire, ces soignants, on les a valorisés. C'est-à-dire qu'on leur a donné une compétence supplémentaire. Et les populations qui n'avaient simplement pas accès au diagnostic ont maintenant accès à un diagnostic de qualité et donc une prise en charge de qualité.
Avec, justement, cette prise en charge de qualité, ce sera mon dernier point, c'est l'importance de travailler sur le long terme. Et justement, pour travailler sur le long terme, on a parlé des manques de structure, on n'a pas eu le temps de parler du manque sur les médicaments, par exemple, quelque chose aussi d'essentiel. Mais sur les soignants, former les gens, Béatrice Garrette, la Fondation Pierre Fabre a aussi une action sur ce terrain qui est absolument essentiel. Payer des études c'est pas forcément évident quand on a aussi la famille à prendre en charge, etc. Donc cette formation là, c'est vraiment de l'investissement à long terme.
Alors il y a un secteur dans lequel depuis 20 ans en fait la fondation a mis beaucoup d'efforts, c'est la formation des pharmaciens, puisque la distribution du médicament, du bon médicament, elle passe aussi par des professionnels bien formés. Et là, bah, il faut dire, c'est d'investissement à très long terme, mais c'est la seule possibilité. Donc vous formez un pharmacien en 5-6 ans, mais c'est des gens après qui vont être des appuis, qui vont être des leaders dans leur propre pays. Donc c'est vrai que l'investissement dans le capital humain est totalement essentiel.
Et justement, former ses soignants, investir dans les facultés de médecine ou de pharmacie, encore faut-il donner les moyens suffisants, Michel Sidibé, pour que ces médecins ne partent pas. C'est essentiel, il faut retenir ces médecins. Comment on les motive? On en a parlé tout à l'heure avec le professeur Léon Chilolo, mais j'y reviens. J'ai vu que, par exemple, au Bénin, il y avait plus de médecins béninois qui exerçaient en France que dans leur propre pays.
Oui, moi, je crois que si on veut aller sur le long terme, comme vous le dites, c'est de diversifier les sources de financement. Aujourd'hui, il faut qu'on soit plus créatif, qu'on arrive à certainement avoir des financements innovants, qu'on soit beaucoup plus proche du secteur privé. Il faut pas le négliger. Mais si on veut retenir, je pense que quand les gens s'en vont, moi, j'ai constaté qu'il n'y a que deux éléments qui provoquent le mouvement des populations. Soit c'est répulsif, soit c'est attractif. Et c'est répulsif parce que le contexte, comme le disait le professeur, le contexte ne se prête pas, les conditions ne sont pas là, la formation acquise, les personnes n'arrivent pas à les utiliser de façon adéquate, donc les personnes veulent partir. Et ça, ce mouvement, nous l'avons pas seulement entre le Sud et le Nord. Et nous avons beaucoup plus de mobilité
interafricaine.
Donc, il faut d'abord que les gens se sentent dans des situations où on peut les valoriser. Deuxièmement, c'est souvent attractif, bon, parce que tout simplement, les gens trouvent ailleurs des opportunités qui se créent. Bon, ça, je pense que c'est pas tellement ce type de migration qui nous gêne.
Alors, notre émission touche à sa fin. Pour terminer, c'est un seul et même mot que je vais vous demander de définir, chacune, chacun, sous la forme d'un tour de table. Ce mot, c'est efficience. On va dire pertinence, éthique, efficacité, on va parler de tout ça. Résumer ce terme d'efficience, parce que quand on investit, on en attend bien évidemment des résultats. Docteur Lara Gologli, c'est quoi l'efficience pour l'OMS?
Dans le secteur de santé, c'est que chacun reçoit les soins qu'il leur faut, autant qu'il leur faut, dans leur contexte, sans appauvrir la famille et soit rendre impossible la situation interne pour les gouvernements.
Alors on va voir si du côté du soignant, du chercheur, professeur Léon Chilolo, vous donnez la même définition pour vous en santé, à l'efficience en santé?
Eh bien pour moi l'efficience en santé, c'est de répondre aux besoins de la population. Et aujourd'hui le numérique est aussi un des moyens essentiels pour répondre à ce besoin.
Ministre de la Santé, Michel Sidibé, efficience?
Moi, je crois que c'est laisser personne au bord de la route. C'est de faire en sorte que nos investissements puissent créer de l'espoir, puissent transformer et qu'il y ait une plus grande justice sociale. Et là, on est efficient, sinon on ne l'est pas. Si on reste sur des soins pour une minorité, bon, je pense que la qualité de nos investissements ne vont pas porter.
Béatrice Garrett, pour le mot de la fin.
Je pense, comme Monsieur le Ministre, qu'il faut s'attacher à donner accès à des soins de santé aux populations qui en sont dépourvues et qui sont malheureusement très nombreuses. Donc les populations les plus vulnérables, les populations qui n'ont pas droit à des soins qui permettraient simplement d'éviter les morts évitables. Et cela avec les moyens utilisés le plus astucieusement possible. Et je pense que l'innovation a un rôle énorme à jouer. Et souvent, on parle d'innovation frugale, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire trouver les moyens que, justement, on puisse faire de grands progrès avec des ressources parfois limitées, mais qui sont parfois plus efficaces que des grands programmes.
Je vous remercie chaleureusement, tous les quatre, d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Merci à vous, docteur Lara Gologli. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du bulletin de l'Organisation mondiale de la santé. Merci à vous, Michel Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali, professeur Léon Chilolo, pédiatre hématologue, président du réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale. Et merci merci à vous, Béatrice Garrett, directrice générale de la Fondation Pierre Fabre. On vous remercie pour votre accueil. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare votre émission. Aujourd'hui, Ophélie Lassène pour la coordination. Thibaut Baduel pour la réalisation ici à Lavore dans le Tarn. Lundi, dans Priorité Santé, reportage signé Igor Strauss en Côte d'Ivoire. On vous donne donc rendez-vous à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunway Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance.